91.9 Sport.
Bon, vous vous souvenez, samedi, il y a eu ce communiqué du Canadien de Montréal. Question d'en avoir le cœur net. On va aller rejoindre une historienne. Madame Rossa Aurore Bouchard est avec nous. Bonjour, Madame Bouchard.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, moi. J'ai pas de problème.
Pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que le Canadien a raison de parler de terres empruntées?
Ben, non, absolument pas. Écoutez, la plupart des historiens qui ont fait le moindrement de recherche savent très bien ce qui s'est produit, que les Iroquois, surtout pas les Mohawks, qui n'étaient pas là lors des premiers contacts, ont même jamais été là, même avant. Les fouilles archéologiques l'ont très bien prouvé. Il y a eu une multitude de fouilles archéologiques et ça se produit. Les données sont ponctuelles, les données sont véritablement objectives, là. Personne ne peut contester le fait. Les Mohawks n'étaient pas là avant l'arrivée des Européens.
En conversation avec l'historien Mme Bouchard, qui est titulaire d'une maîtrise en histoire à Laval, comme on avait parlé un peu plus tôt cette semaine, est-ce que le Canadien, le but de ce communiqué-là, c'est... Vous savez, à travers le pays, j'ai vu autant à Winnipeg, à Calgary, des hymnes nationaux où on a voulu rendre hommage aux communautés en raison de tout ce qui est arrivé à ces pauvres enfants qui ont été martyrisés et enterrés près des écoles.
Oui, écoutez, on fait de l'histoire ou on fait des actions sociales. Les historiens, les archéologues essayent de rester collés aux faits. On n'est pas là pour établir les torts de l'histoire ou de corriger ou de permettre à des communautés de se tirer d'affaires. L'historien est lié aux faits, à des analyses qui sont rigoureuses, et puis on émet des constats, et à partir de ce moment-là, on fait pas de politique. Le problème, c'est que dans l'affaire du Canadien, il y a de la politique, il y a aussi une manière de bien se faire entendre par les Premières Nations, mais il y a aussi, et ça c'est une dérive qu'on a dans notre société, c'est que de plus en plus les hommes politiques et les hommes d'affaires, les commerçants, vont aimer mieux faire affaire avec un chef ou deux amérindiens que de faire affaire avec les populations, les députés, les maires. Alors, quand on dit que les Mohawks sont propriétaires des terres ancestrales à Montréal, c'est dans le fond, on vient d'éliminer la puissance du territoire dirigé par des députés, dirigé par des maires, des mairesses. C'est très politique, puis il faut dénoncer ça, là. Ça n'a pas de bon sens. D'abord, rien que le terme « canadien » lui-même, c'est assez loufoque, c'est que le terme vient d'abord et avant tout quand Champlain arrive dans la vallée du Saint-Laurent pour s'établir à compter du début du 16e siècle, du 17e siècle, pardon. Il rencontre les Canadiens qui sont les Algonquins vivant à peu près entre Tadoussac et Québec. Ce sont des Canadiens. Et curieusement, cette formation-là sportive du Canadien est en train de reconnaître curieusement les Mohawks qui étaient les alliés au temps des Français, qui ont été leurs pires ennemis et qui les ont décimés. Vous voyez, ça ne tient pas. Il faut dénoncer ça. Les historiens l'ont très bien fait. J'en ai écouté plusieurs sur les ondes. Ils ont très bien fait leur travail. Les archéologues ont fait un bon travail. Et il faut continuer de faire de l'histoire et non pas de travestir ça avec de la politique puis faire des bonnes affaires. C'est là qu'on a un problème. C'est qu'on mêle tout. Laissez-nous travailler. On émet des hypothèses, moi ça fait 50 ans que je fais de la recherche, quand je publie, mes documents sont là, sont vérifiables, les sources sont vérifiables, c'est la même chose pour Denis Delage ou d'autres qui font des recherches, alors il faudrait que les gens nous laissent travailler, puis que les politiciens nous laissent travailler, puis arrêtent d'intervenir, et puis que la nouvelle mode de réécrire l'histoire, parce que c'est qu'on appelle les « woke », qui est rendu une donne aujourd'hui, ça a pas d'allure, il faut arrêter ça, il faut qu'on travaille. On peut pas dénaturer les faits sans dénaturer le présent, sans dénaturer aussi les projets que nous avons pour l'avenir. Tout ça est récupéré par le politique et mal récupéré. Il faut dénoncer ça vertement, avec des bons documents. Moi, je vais publier un livre là, dans moins d'un mois, curieusement, qui arrive exactement sur le projet. Le titre, c'est « Autochtonie, la rencontre ». Alors, c'est toute l'époque des premiers contacts. Comment étaient les Indiens? Comment ils se comportaient, quelles étaient leur sexualité, les familles, la manière de se comporter, leur spiritualité, la vision face à la mort. et comment ils étaient. Et c'était des peuples très organisés, quoi qu'on en pense, mais on peut pas dire n'importe quoi non plus. Quand Cartier est arrivé dans Gaspésie dans son premier voyage en 1534, il a rencontré des familles indiennes qu'on pense qu'ils étaient des Iroquois de la région de Québec et de Tadoussac venus chasser saisonnièrement. En 1535, il rencontre des Iroquois à Hochelaga, qui va devenir Montréal. Et ces gens-là ont disparu peu après son troisième voyage. D'ailleurs, à son troisième voyage, la guerre est prise. On s'en aperçoit parce que Roberval et Cartier partent quasiment la queue entre les deux jambes parce que ça fonctionne pas. Les Indiens sont en maudit. Et on sent aussi qu'il y a une mouvance ethnique fondamentale. Et il va se produire entre 1542... le départ de dernier départ de Cartier et l'arrivée de Champlain au début du siècle suivant, il se produit une révolution, on connaît pas, on comprend pas. Les documents sont trop rares, les documents d'archives sont trop rares, les témoignages sont trop rares aussi. Alors, qu'est-ce qui nous reste pour évaluer tout ça? Ce sont les fouilles archéologiques qui se produisent depuis un demi-siècle, des bons résultats. Et c'est à partir de ces données-là ponctuelles, très certaines, parce que on évalue on compare les objets, le mobilier et tout. Mm-hmm. Et ça réussit, on réussit à avoir des bonnes données quand même.
Raphaël?
Madame Bouchard, j'ai une question pour vous. Pourquoi, si c'est pas vrai, pourquoi le Canadien a émis un communiqué disant qu'il jouait, qu'il était sur un territoire non cédé pour se faire simplement du capital politique, de la bonne presse?
Ben, écoutez, là, on voit ça au Saguenay aussi avec les Illinois. Moi, quand j'ai lancé le dernier des Montagnards en 1995, ça a fait un fiat, a été 6 mois à me faire dénoncer par les historiens qui voulaient pas que ce soit ça. Et curieusement, les Montagnards sont devenus des Illinois. Ils récupèrent sur des réclamations qui est 55% du territoire du Québec. Aujourd'hui, les historiens ne parlent que des Inuits, alors qu'on n'a jamais vu ce nom-là dans les documents du 17e siècle, du 18e siècle. Il y a une dérive historiographique au Québec, il faut la dénoncer. Les historiens travaillent trop pour des sponsors. La plupart se ramassent dans des cours de justice avec des travaux qu'ils ont faits, qui ont été commandités. Je le déplore. Moi, j'ai été sommé d'aller défendre en cours la cause des Métis. Je voulais pas y aller parce que ce n'est pas à un juge de dire ou à des avocats qu'est-ce que c'est la raison historique. L'histoire. Dans la démarche que moi je fais depuis 45 ou 50 ans. Un juge n'a pas cette compétence-là. Je ne le reconnais pas. Je lui reconnais le pouvoir d'établir des jugements, mais pas celui de s'immiscer dans l'histoire. Alors j'ai refusé d'y aller. J'ai reçu un subpoena. Si je n'y allais pas, j'avais 1 an de prison. Voyez où est-ce qu'on en est rendu au Québec. L'histoire. On ne fait plus de l'histoire, on fait de la politique. Les historiens les plus prospères négocient leurs avantages avec des avocats. Et quand on se prononce en cours, moi j'étais 5 jours sur la sellette au palais de justice sur la cause des Métis. 5 jours, c'est pas petit là. J'étais véritablement bombardé. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les avocats qui sont de notre côté, c'est-à-dire celui de la cause qu'on croit qui est juste, veulent qu'on ait raison, et les procureurs de la Couronne qui sont soit pour l'Hydro-Québec et pour d'autres causes, eux autres veulent qu'on ait tort. C'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. Ouais, quand on fait de l'histoire, on essaye de comprendre et on essaye de transmettre la manière qu'on a pris pour comprendre ce qu'on aimait. C'est comme ça qu'on publie un livre, pas pour répondre à des besoins des causes de justice. Moi, je le déplore, la judiciarisation de l'histoire au Québec. Alors là, on voit aussi que c'est une question d'affaires. Je déplore ça totalement, je m'inscris en faux contre ça.
On peut l'entendre.
Je vous dis, toute l'historiographie au Québec doit être reprise de A à Z.
Je peux vous dire une affaire, si c'est vous qui m'aviez enseigné l'histoire, j'aurais pas eu que 70%.
Ouais.
juste pour être certain, puis je veux pas en rajouter, là, on parle pas d'ignorance de la part du Canadien dans leur communiqué, on parle de mauvaise foi, c'est ce que vous me dites.
Bon, écoutez, c'est un canular, ça, cette affaire-là. Il y a pas un historien qui est digne de ce nom, qui a fait un peu de recherche, qui va dire le contraire. Là. On n'est pas là pour faire des affaires, là. Les Mohawks n'étaient pas là. Ils vont arriver dans le bout de Montréal, puis c'est même pas les Mohawks, c'est des Oneyoutes qui vont arriver à partir de 1667, et puis on va arriver des Mohawks, qu'on appelle des Agniers à l'époque des Français, on va les voir arriver 1 an ou 2 plus tard, qui vont s'établir avec d'autres familles. Et curieusement, saviez-vous que quand les Iroquois arrivent pour s'établir à Montréal, 75% des Iroquois des Cinq Nations n'appartiennent pas d'origine, ne sont pas d'origine des Cinq Nations. Ils viennent de des prisonniers qu'on a incorporés. Ils vont venir d'ailleurs. Et de toute façon, les Iroquois vont faire des raids après 1649 pour venir récupérer des Hurons, soit ceux qui sont établis à l'île d'Orléans, à Sillery, à Québec aussi. C'est vraiment une histoire qui est très prenante. Il y a énormément d'événements qui se prennent. Puis il faut vérifier les faits, de quelle manière tout cela s'établit. C'est une longue histoire, c'est une belle histoire, l'épopée du 17e siècle, la façon dont les Français vont s'établir. Les Français, d'ailleurs, qui vont avoir un comportement admirable par rapport aux Indiens, contrairement aux anglophones, alors que je vois dans les journaux qu'on serait tous coupables d'être venus et d'avoir cohabité avec les Autochtones de l'époque. C'est complètement faux. Les Français ont eu un comportement admirable. Et eux autres, ils avaient, contrairement aux Anglais, qui, dans leur philosophie, comme les Espagnols, on élimine l'Autochtone. D'ailleurs, ils l'ont fait dans toutes les colonies. Tandis que chez nous, les Français, leur philosophie, à partir de 1627, on fait peuple avec l'Autochtone. Et lorsqu'on va établir en 1627 la charte pour s'établir en Nouvelle-France, l'Indien avec lequel on va s'établir et qui va devenir catholique va devenir un Français à part entière. Trouvez-moi un conquérant qui a fait un tel avancement. Hey, on a été au 17e siècle, début du 17e siècle, où les Espagnols continuent d'assassiner tout ce que c'est qui se passe dans le sud avec les Autochtones, où les Anglais sont en train de préparer l'envahissement des États-Unis par l'Ouest. Et nous, on fait peuple, on est en train de découvrir avec les Indiens l'Ouest déjà américain. On est là bien avant que les Anglais arrivent dans l'Ouest américain. Alors, il faut rétablir les faits. Les Canadiens français et les Français qui se sont établis au Canada ont été un plus pour les Autochtones. Et je vous dirais même plus que s'il n'y avait pas eu de métissage avec les Français, il y aurait pu un Indien au Québec, parce que c'est le métissage euro-amérindien grâce aux Français qui a fait que les Indiens ont réussi à survivre aux épidémies, aux guerres et à la famine.
Madame Bouchard, en terminant là, en 30 secondes, est-ce que le Canadien, selon vous, devrait se rétracter et changer son fusil d'épaule? Parce que là, on va en faire mention, on va faire un clin d'œil au peuple autochtone tout au long des matchs à domicile.
Ah, il faut qu'ils se retirent d'une telle assertion, ça n'a pas d'allure. Et comment ils vont faire? Ben, ils feront ce qu'ils pourront, là, mais ils sont pas dedans, là. Alors, autant là, qu'ils arrêtent ça, là, c'est une fumisterie, ça.
Madame Bouchard, un énorme merci. Je vais vous laisser avec des textos d'auditeurs. Anthony qui nous dit « Excellente entrevue en passant, super intéressant. » Martin qui écrit « Extraordinaire. » Merci beaucoup de nous avoir éclairés.
J'essaie pas d'être bonne. J'essaie de dire la vérité. Ouvrons-nous les yeux et arrêtons de plier devant le mensonge.
Merci beaucoup de votre intervention.
Je vous en prie. Bonjour.
Bonjour. Écoutez, percutant comme entrevue, c'était l'historienne titulaire d'une maîtrise à l'Université Laval en histoire, Mme Russell Aurore Bouchard, si jamais vous voulez en savoir encore plus.
Passionnée, très bonne vulgarisatrice, on a pas mal tout compris.
Ouais.
Bravo.